qu'on puisse dès maintenant entrer dans ce message que le Seigneur veut nous adresser au travers de cette question qui se trouve dans Luc, chapitre 6. Une question du Seigneur envers tous ceux qui l'écoutaient. Et je crois que cette question se répète encore cet après-midi pour chacun d'entre nous. Luc, chapitre 6, verset 46. Ce sont des choses qu'on connaît bien, mais qu'on a besoin encore une fois d'entendre et de mettre en pratique surtout. Luc, chapitre 6. Verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. » Sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il a été dit, la raison pourquoi la maison a bien tenu, parce qu'elle était bien bâtie. Cet après-midi, je voudrais qu'on puisse voir ensemble comment une maison peut être bien bâtie. Et vous avez très bien compris que la maison, il s'agit de chacune de notre vie. Chacune de nos vies qui est devant le Seigneur comme une maison. Le Seigneur prend cette image. Et de ces deux maisons, une qui est construite sur le roc, l'autre qui est construite sur le sable. Presque tous les jours, mes enfants me demandent de chanter « Le fou sur le sable a bâti sa maison ». C'est exactement cette histoire. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je connais bien aussi. Et combien on a besoin de revenir. C'est vrai que c'est des images simples, mais combien c'est parlant. Même les enfants comprennent ces choses. Combien on a besoin, nous aussi, de réfléchir comment notre maison peut être bien bâtie. Et il y avait quelqu'un qui prenait justement cet exemple en prenant cette parabole, que notre vie est une maison et que Dieu vient pour reconstruire notre maison quand on l'accepte pour la première fois dans notre vie. Dieu, il vient reconstruire la maison. Alors, il va avoir des trous dans les murs, il va commencer à reboucher les trous qui sont là, il va avoir des fuites sur le toit, il va changer les tuiles, il va faire ce qu'il faut. Et puis on se dit, ah c'est merveilleux, le Seigneur Jésus, il fait quelque chose dans ma vie. Et puis tout à coup, il se met à casser une cloison carrément. Et tout à coup, il se met à faire des trous, alors qu'on n'imaginait pas du tout qu'il fasse ces choses. Et ça commence à nous faire mal tout ça. Et ça commence à nous faire peur, mais qu'est-ce qu'il veut faire, où il va? Et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure, il est en train d'agrandir la maison. Il est en train de rajouter des pièces. Il est en train de monter une tour. Il est en train de faire toutes sortes de murailles. Et il est en train de faire carrément un palais. Parce que le Seigneur Jésus, il ne veut pas simplement que notre vie soit une petite maisonnette. Il veut que ça soit un palais, un temple qui va accueillir sa présence. Et il veut venir habiter à l'intérieur. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Alors que nous puissions, cet après-midi, réfléchir simplement, très, très simplement, comment bien bâtir notre maison. Trois choses. Une qui est évidente dans ce passage, il faut un fondement, il faut des murs, la deuxième chose, et il faut un toit. Vous voyez que c'est très simple, mais combien c'est important chaque étape. Parce que bien bâtir la maison, ça veut dire tous ces aspects-là. La première chose, c'est qu'il faut des fondements. Notre maison doit être un édifice bien fondé. Dieu, il ne va pas habiter n'importe où. Dieu ne va pas habiter un endroit où il y a le péché qui est présent. Une vie qui est dans la souillure, dans les transgressions continuelles, dans la rébellion. Dieu ne peut pas habiter dans ces endroits parce qu'il est pur et saint. Dieu ne peut pas habiter n'importe où. Et si Jésus aujourd'hui, imaginez un instant que le Seigneur Jésus ait besoin de dormir quelque part et que vous vous proposiez à l'accueillir chez vous, qu'est-ce que vous allez lui fournir comme endroit? Est-ce que vous allez le faire dormir, moi j'ai un clic-clac dans le garage, est-ce que vous allez le faire dormir dans le clic-clac dans le garage? Est-ce que vous allez le faire dormir sur un matelas par terre? Ou est-ce que vous allez dire, c'est le Seigneur Jésus, je vais lui donner ma chambre, mais la meilleure chambre de toute la maison, je vais faire en sorte qu'elle soit bien préparée, les draps tout propres, le ménage fait partout, comme il n'a jamais été fait, les murs repeints s'il faut, peu importe, le meilleur pour le Seigneur Jésus. Et est-ce qu'on n'a pas besoin de réfléchir à quel endroit on doit bâtir notre maison spirituellement, si nous voulons accueillir le Seigneur? Nous devons fonder notre vie sur un fondement éternel. C'est la première chose. Proverbe chapitre 10 et le verset 5 nous parlent de cette vérité. Proverbe 10, verset 5, Celui qui amasse, alors c'est pas la bonne référence, 25, pardon, Proverbe 10, verset 25, « Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. » Et je travaillais dans une usine où il y avait des grands bâtiments, c'était des chaudières à vapeur à très haute pression. C'était carrément presque des immeubles, les bâtiments, qui englobaient la chaudière. Et je me souviens avoir vu une chaudière être montée sous mes yeux, que quand je suis arrivé, ils avaient commencé à faire des fixations profondes. La chaudière a monté à 30 et quelques mètres, et ils avaient creusé des trous dans la terre, plusieurs trous, qui allaient jusqu'à, je crois, plus de 100 mètres. Quelque chose d'impressionnant. Et il y en avait, je ne sais plus combien, une dizaine, remplis de béton par la suite, sur laquelle la chaudière allait être construite. Vous imaginez quand même ? Heureusement que pour les maisons individuelles, ce n'est pas comme ça. On n'a pas besoin de tous ces efforts. Mais pour les bâtiments industriels, il y a toutes sortes de normes. On veut s'assurer que s'il y a un tremblement de terre, s'il y a des inondations, s'il y a un glissement de terrain, peu importe, que la chaudière va tenir bon. Parce que si elle ne tient pas bon, c'est un risque d'explosion et ça peut faire mal. Et combien on a besoin d'aller jusque dans des fondements éternel, quelque chose qui est solide, quelque chose qui demeure. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils vont pouvoir baser leur vie sur peut-être l'argent, gagner beaucoup d'argent, ou peut-être sur leur position sociale. Ah, moi je suis bien placé dans la ville, je suis adjoint au maire, je suis conseiller, etc. Et ils fondent leur vie sur ça. Peut-être d'autres vont fonder leur vie sur leur famille. Peut-être d'autres vont fonder leur vie sur la gloire de ce monde. Mais toutes ces choses, est-ce qu'elles sont éternelles ? Toutes ces choses passent. Et combien ça serait une erreur de fonder une vie sur quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui peut disparaître en un instant. On a besoin d'avoir, comme ce passage nous le dit, des fondements éternels. Et qu'est-ce qui dans la parole est éternel ? Qu'est-ce qui dans la parole demeure pour toujours ? Il y a un passage qui nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent justement. Qu'est-ce que c'est ces choses ? La foi, l'espérance et l'amour. Est-ce que ça, c'est des bonnes choses sur lesquelles on peut fonder une vie ? Oui, vous êtes d'accord, hein ? D'ailleurs, Éphésiens chapitre 3, verset 17, je le lis pour vous, nous dit que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Colossiens 1:23 nous dit, si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Vous voyez que la Bible parle d'être fondé dans ces choses qui sont éternelles. Oui, mais quel amour ? Oui, mais quelle foi ? Parce que tout le monde peut dire, merveilleux, il faut que j'aime, que je sois fondé dans l'amour pour bâtir ma vie. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut que j'aime tous les hommes. Mais c'est vrai, la Bible nous le demande. Mais ce n'est pas cet amour-là dont il est question. C'est l'amour de Dieu qui est éternel. Parce que l'amour pour tous les hommes, vous le savez autant que moi, il n'est pas éternel. On a du mal, des fois, à aimer certaines personnes. Mais par la grâce de Dieu, si on puise dans la présence de Dieu, on peut avoir cette capacité d'aimer de façon continuelle, de façon constante, même les personnes qui ne méritent pas, parce que Dieu les aime, alors il va nous donner la capacité à nous de les aimer. Alors il faut qu'on fonde notre vie sur cet amour qui est éternel, l'amour de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, qui nous montre cet aspect qui réunit tout cela. Quel fondement réunit à la fois l'amour, à la fois l'espérance, à la fois la foi. Tout cela est regroupé dans quelque chose, le roc dont parle le Seigneur Jésus, 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe et donc qui explique son ministère. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Et voilà la clé de tout, le fondement, celui qui regroupe tout, l'amour, la foi, l'espérance, c'est le Seigneur Jésus. Parce que l'amour, c'est le Seigneur Jésus qui le révèle, qui manifeste l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, qu'est-ce qui se passe ? Christ est mort pour nous. Jésus est venu manifester l'amour de Dieu. Jésus et celui en qui nous devons avoir foi pour que, alors que nous sommes pécheurs et que nous croyons dans son sacrifice expiatoire, notre péché puisse être effacé dès l'instant où on demande pardon. Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'ai cette foi que je suis un pécheur, mais j'ai cette foi qu'à cause de son sacrifice, tu effaces mon péché quand je me repens. Alors Seigneur, je veux placer ma foi en toi. Et j'ai cette foi aussi que tu vas prendre soin de moi du début de ma vie jusqu'à la fin et encore plus dès l'instant où je vais t'abandonner toute ma vie pour que tu fasses ce que tu veux avec elle. C'est par amour aussi que le Seigneur Jésus va faire en sorte que Dieu nous aide à bâtir notre vie de la meilleure des manières, à bien bâtir notre vie. Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit encore autre chose qui complète cet aspect, le fondement, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et vous voyez qu'il revient encore à Jésus-Christ, mais il parle aussi des apôtres et des prophètes. Et quand nous considérons la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu a utilisé des apôtres et des prophètes pour écrire cette parole. Et c'est ce témoignage qui nous est resté. Jésus-Christ est la pierre angulaire, Jésus-Christ est la parole faite chair. Et c'est dans cette parole aussi que nous devons aller pour fonder. Vous avez remarqué, et on peut revenir à Luc chapitre 6, vous avez remarqué ce que dit le Seigneur Jésus. Luc chapitre 6, verset 48. Qu'est-ce qu'il fait l'homme qui entend la parole et qui la met en pratique? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, donc il commence à bâtir la maison, il fait quoi? Il a creusé bien avant ou bien profond, creuse profond et pose son fondement sur le roc. Est-ce que, frères et sœurs, on n'a pas besoin de creuser et creuser encore dans notre vie, dans notre être intérieur, creuser encore en nous tenant devant la croix de Jésus et dire « Seigneur, fais ton œuvre dans mon cœur, creuse encore et encore au plus profond de mon âme pour que je puisse comprendre quel est mon péché et que je puisse, Seigneur, poser le solide fondement qui se trouve être ta personne. Seigneur, je veux que tu prennes la place en moi, je veux que tu fasses ton œuvre en moi, je veux, Seigneur, aller dans ta présence et creuser encore jusqu'à ce que j'arrive à cette révélation que tu es l'endroit, le meilleur endroit sur lequel je peux bâtir ma vie. Tu es la meilleure chose, le fondement le plus solide sur lequel je dois bâtir ma vie. Et même si je voudrais essayer de bâtir à côté, que Seigneur, garde-moi de le faire parce que je me rends compte que tout ce qui est à côté, ça ne va pas tenir. Mais tout ce qui est fondé en toi, tout ce qui est enraciné dans ta personne, Seigneur, ça va rester parce que c'est un fondement éternel. Un édifice bien fondé, un édifice bien fortifié. Une fois qu'on a l'endroit où il faut bâtir, il faut commencer à bâtir. On est d'accord, c'est évident. Il faut commencer à bâtir, ça veut dire quoi? Eh bien, les maçons le savent très bien. Il faut prendre les blocs, les briques, et puis les mettre les unes à côté des autres, et le ciment, etc. Mais il faut commencer à mettre la main à la pâte. Le mur ne va pas se monter tout seul. On a besoin de se mettre à l'œuvre. On a besoin de retrousser les manches et de dire, ben, ça y est, maintenant, il faut que j'y aille. On a beau avoir une grande conviction que Dieu est capable de faire l'impossible, le Seigneur Jésus ne va pas faire ce qu'il nous demande de faire. Il ne va pas monter les briques à notre place dans notre vie. Qui voudrait d'une maison avec une belle fondation merveilleuse, bien, bien profonde, et puis quatre colonnes au coin de la maison et un toit, mais pas de mur? Qui voudrait de ça? C'est quand même utile, les murs. C'est quand même très utile. Pour différentes choses, différentes raisons. Et il suffit d'avoir un coup de vent comme on a eu la semaine dernière pour se rendre compte que c'est très utile un mur. Et combien c'est utile dans notre vie d'avoir un mur. Et plus qu'un mur, quelque chose d'épais, quelque chose de solide, quelque chose qui va durer aussi. Cela, ça se fait quand on marche dans une vie d'obéissance. Et j'avais cette image, alors qu'on peut lire dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, cette image de cette personne qui doit monter un mur. Le Seigneur Jésus, enfin Dieu, s'adresse au prophète Ézéchiel et il interpelle la ville au travers de sa bouche et il lui pose cette question, cette interrogation de Dieu. Après avoir décrit toutes sortes de comportements mauvais de ce peuple, le peuple de Jérusalem, il est dans des comportements mauvais. On pourrait peut-être lire à partir du verset 24 pour voir ce qu'il en est. Ézéchiel 22, 24. « Fils de l'homme, dit à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosé de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein, comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Il dévore les âmes, Il s'empare des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Les sacrificateurs violent la loi. Les profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes, etc. Vous voyez déjà dans quel cadre se trouve Jérusalem pour que le Seigneur Jésus puisse dire cette parole au verset 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Il a pu dire à cette époque-là, à Jérusalem, « Je ne trouve personne, personne qui marche dans la sainteté. » Personne qui marche dans l'obéissance, non pas quelqu'un qui est parfaitement saint, parfaitement infaillible, mais quelqu'un qui, à chaque fois qu'il tombe, est capable de dire « Seigneur, je te demande pardon et je vais aller de l'avant, je vais apprendre par ton Saint-Esprit à résister à la tentation », quelqu'un qui, par sa vie, parce qu'il était capable de faire la différence entre ce qui était pur et impur, eh bien, était un témoignage vivant de ce que le Dieu habitait dans sa vie. Mais le Seigneur Jésus a dit, enfin Dieu a dit à ce moment-là, « Je trouve personne ». Je trouve personne. Et je voudrais trouver quelqu'un qui élève un mur. Cet après-midi, frères et sœurs, est-ce que le Seigneur Jésus peut regarder à chacun de nous et dire, oui, voilà une personne qui est en train d'élever un mur, qui est en train de fortifier le mur de sa maison pour que sa vie soit un témoignage que je suis en train d'agir en elle, que je suis en train de bâtir sa maison, que je suis en train de faire une œuvre. Et vous savez que quand le Seigneur Jésus commence quelque chose, il le fait bien. Regardez la promesse qu'il a faite dans Philippiens. Celui qui a commencé en vous cette œuvre, qu'est-ce qu'il va faire? La rendra parfaite. Qui peut rendre les choses parfaites? Qui voudrait commencer à bâtir une maison et dire « Attendez, moi je vais venir, je vais rendre parfaite votre maison ?» Qui oserait le dire? Il n'y a que Dieu qui est capable de le dire. Voilà pourquoi, non seulement il faut qu'il soit notre fondement, Seigneur Jésus, mais il faut aussi qu'il soit cette aide, celui qui va nous aider à bâtir. Et je prenais cette image, chaque brique que nous prenons, c'est toutes les décisions, toutes les œuvres que nous faisons, toutes les paroles que nous disons, toutes les pensées que nous avons, continuellement, jour après jour. Est-ce que nous les plaçons de manière à ce qu'elles soient bien alignées avec le fondement qui est la parole de Dieu? Est-ce que toutes ces choses sont conformes? Comme un maçon, il est obligé de prendre le niveau pour voir si son mur il est bien droit. Est-ce que nous prenons la parole de Dieu pour sonder notre cœur? Vous savez que les pharisiens, Jésus leur a fait un reproche, entre autres. Vous sondez les Écritures parce que vous espérez avoir en elles la vie éternelle. Vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi. Vous ne voulez pas venir à moi. Combien savent cet après-midi que c'est bien de sonder les Écritures, mais il faut les laisser nous sonder, les Écritures, plutôt. Il faut être sondé par les Écritures. Il faut laisser notre vie être nivelée par la parole de Dieu. Il faut qu'à chaque fois qu'il y ait une parole qui est prête à sortir, est-ce qu'elle est conforme à la parole? À chaque fois qu'il y a une pensée qui se présente, est-ce qu'elle est conforme? Est-ce que ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation, est l'objet de mes pensées? Ah non, ah ben, je chasse cette pensée, je rends mes pensées captives à l'obéissance. Je choisis d'élever un mur qui va glorifier mon Seigneur, un mur qui va être solide. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'approbation de Dieu, et quand il y a l'approbation de Dieu, vous savez que même si notre mur il est pas très épais, il y a la gloire de Dieu, Dieu nous a fait la promesse qu'il viendrait avec une muraille de feu tout autour de nous, et sa gloire à l'intérieur. Combien savent que la muraille de feu de Dieu, elle est solide, les ennemis ne vont pas l'approcher, mais on a besoin de marcher dans l'obéissance. On a besoin de marcher dans cette vérité. Et Ézéchiel, toujours, a été confronté à une vision dans laquelle il voit quelque chose de particulier dans Jérusalem. Ézéchiel chapitre 8, maintenant on peut aller au chapitre 8. Il voit quelque chose de particulier, il voit un trou dans la muraille. Vous vous souvenez de cet endroit? Ézéchiel chapitre 8. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, 8 verset 7, pardon. Il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Qu'est-ce que c'est un trou dans le mur? C'est rien. Un petit trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille, et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre, et vois les abominations, les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais. Voici, Il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? Car ils disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz, encore un dieu. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le sommeil. Vous voyez, ça a commencé comment ? Un petit trou dans le mur. Et est-ce que dans nos vies, est-ce que dans la maison que nous bâtissons, notre vie qui est bâtie à la gloire de l'Éternel, est-ce qu'il y a des petits trous dans le mur ? Dans lesquels l'ennemi peut s'engouffrer, qui deviennent des accès au diable, qui deviennent des mauvais comportements. Ah oui, bon, peut-être on s'est tenu on a marché droit pendant un certain temps, mais on a laissé un petit trou dans le mur. On n'a pas fait attention à quelque chose dans notre vie. On a laissé quelque chose et on n'a pas tenu compte de ça. On a continué à bâtir comme si de rien n'était. Mais le Seigneur Jésus nous interpelle cet après-midi. Est-ce que dans votre maison, il y a des trous dans le mur. Éphésiens chapitre 4 nous parle de tous ces comportements qui sont des accès au diable. Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Combien nous avons besoin d'être ces maçons sérieux, sages, qui vont utiliser la parole pour être leur niveau entre leurs mains et qui vont être ces personnes qui vont laisser le Seigneur Jésus guérir là où il y a besoin d'être guéri, boucher les trous. Quand le Seigneur Jésus dit « Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche », est-ce que ça ne veut pas dire aussi que dès l'instant où il y aura une brèche, il faut que tu sois prêt à avertir, il faut que tu sois prêt à réagir, il faut que tu sois prêt à faire quelque chose. Vous savez que c'était une façon de faire, qu'à l'époque ils avaient des murailles et que l'ennemi, quand il voulait attaquer, il commençait à percer un petit trou dans la muraille pour essayer de faire un accès. Et il fallait qu'il y ait une personne qui se tienne à la brèche, justement. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui est prêt à donner l'alerte. Mais si tout le monde dormait, que personne ne voyait cet accès, l'ennemi avait la capacité de rentrer. Même si les portes étaient les plus solides du monde, oui, mais la muraille est percée. Nous avons besoin de veiller, d'avoir cette attitude, de marcher dans cette sainteté. Est-ce que nous allons bâtir aussi un mur qui penche ? Est-ce que nous allons bâtir notre vie brique sur brique sans tenir compte de ce que la parole de Dieu dit ? Allez, vite, vite, il faut faire des œuvres, il faut agir, il faut servir, il faut. Sans laisser le temps au Seigneur Jésus de nous former, de nous modeler. On a besoin d'être dans sa présence et d'avoir dans notre vie ce mur qui vont fortifier notre vie, qui vont nous protéger. Moi, j'aime ce verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce qu'elle fera ? Gardera vos cœurs et vos pensées. Il y a une protection, il y a une fortification qui se met en place de la personne qui ne s'inquiète pas. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais avoir d'inquiétude, parce que la personne pourrait bénéficier de la paix de Dieu. Mais ça veut dire que quand je suis inquiet, quand je suis dans une situation difficile, je suis capable de transformer cette situation difficile en un cri au Seigneur. Seigneur, tu vois mon inquiétude, tu vois ma crainte, tu vois ma peur, tu vois mes tremblements. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton abri sûr et solide. Et alors que l'on fait cette prière de tout notre cœur, mais la paix de Dieu vient en nous. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et nous avons besoin que notre vie tout entière, qui est en train d'être bâtie par le Seigneur, puisse être gardée, protégée, environnée de sa grâce, plongée dans sa paix, environnée de son amour, et que nous puissions bâtir ce mur et être ces personnes qui intercèdent en faveur de leur pays. Que le nom du Seigneur soit béni. Un édifice bien fondé, bien fortifié, et un édifice bien fini. Il faut avoir un joli toit sur notre maison. Qui voudrait de la plus belle des maisons, la mieux décorée, la mieux équipée, tout l'électroménager avec les domotiques, tout ce qui est moderne. Vous êtes capable avec votre téléphone d'allumer les lumières, d'ouvrir le frigo, de faire un café, tout ce que vous voulez. Mais sans toit. Ça serait bien, mais ça serait bête, parce que ça serait du gâchis. À la première tempête qui passe, ben, il faut jeter la moitié de ce que vous avez, si ce n'est pas plus. Qui voudrait d'une vie chrétienne avec un fondement, le Seigneur Jésus-Christ, avec une marche dans l'obéissance, mais sans une vie de prière réelle. Quelqu'un racontait cette histoire qu'avec son épouse, ils étaient allés en Savoie et ils avaient vu un magnifique chalet, merveilleux chalet, et ils avaient pu le louer pour les vacances. Pendant une semaine, ils étaient restés là, ils avaient profité de la montagne, la Savoie, etc. C'est beau. Et puis, ils avaient dit, l'an prochain, on reviendra au même endroit tellement c'était bien, il faudra qu'on revienne à cet endroit. L'année d'après, eh bien, ils reviennent. Et quelle ne fut pas leur surprise en voyant le chalet dans lequel ils avaient été, qui était tout magnifique, ben là, il le revoit, il était totalement délabré. Et ces personnes sont allées voir le propriétaire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre chalet? Eh ben, il y avait simplement des fuites dans le toit. Et comme c'était quelque chose en bois, eh ben, l'eau qui s'est engouffrée au travers des fuites a fait gonfler le bois partout, ça a craqué, ça a enlevé la peinture, ça a fait toutes sortes de choses. Voilà pourquoi le chalet est dans cet état. Quelques petites fuites dans le toit aussi. Ah oui, les trous dans la muraille, c'est quelque chose déjà. Mais les fuites dans le toit, c'est aussi important. On a besoin d'avoir ce toit. En Israël, vous savez que les maisons, elles étaient plates. Les gens pouvaient aller au-dessus de la maison. Et il y avait toutes sortes de choses qui prenaient place au-dessus de la maison. Certaines fois, ils faisaient sécher certains fruits, différentes choses qu'ils mettaient en réserve. Des fois, ils allaient prier, comme l'apôtre Pierre qui allait prier sur le toit. Il y avait toutes sortes de choses. Des fois, ils plantaient les tentes pour pouvoir dormir, parce qu'il faisait un peu meilleur la nuit. Il y avait différentes raisons pour que le toit soit plat. Mais en tout cas, c'était comme ça. Mais il y en a qui ont transformé le toit de leur maison dans le pays d'Israël pour en faire un endroit où ils allaient adorer les idoles. Encore une fois, Jérémie, chapitre 19, regardez ce passage. Dieu, il met en garde son peuple justement par rapport à toutes ces choses qui ont pris place. Les gens, dans toutes les maisons d'Israël, il y avait quelque chose qui prenait place sur le toit des maisons. Jérémie 19, 13, les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda, même les rois, c'était leur cas, seront impures comme le lieu de Tophet, toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux. Vous imaginez? Et on faisait des libations à d'autres dieux. Les gens qui adoraient les étoiles, qui adoraient toutes sortes de dieux, ils le faisaient non pas de manière cachée comme juste avant c'était le cas, ils le faisaient de manière sans honte, de manière visible, sur le toit de leur maison, comme si c'était quelque chose de magnifique. Et vous comprenez pourquoi notre Dieu a dû, à un moment donné, juger le peuple d'Israël et intervenir. Il y a différents passages, je ne voudrais pas multiplier les exemples, mais le toit de la maison, ça nous parle de l'endroit où on doit rendre le culte, ça nous parle de cette vie de prière. Et il y en a qui, dans ce temps-là, ont accepté que ce soit à des idoles qui rendent leur culte, qu'ils ont accepté dans leur vie, être centré autour de certaines idoles et pas du Dieu vivant. Mais l'apôtre Pierre, comme je le disais tout à l'heure, on se souvient de cette histoire dans Actes 10, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le toit de la maison pour avoir un temps dans la prière devant le Dieu vivant et vrai. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Est-ce que c'était important qu'il monte sur le toit? C'était important parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui, je pense. Dieu aurait utilisé quelqu'un d'autre, vous allez me dire, c'est sûr. Mais c'était à cause de ce moment qu'il a passé sur le toit, à ce moment-là, Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il aille aussi évangéliser les païens, alors qu'il n'aurait jamais été le faire de lui-même. Et que même sa religion lui interdisait de le faire, sa religion d'avant. lui interdisait de le faire. Et c'est, dans son esprit, c'était impensable qu'il aille parler à des païens. Mais alors qu'il est monté sur le toit, qu'il a choisi de prendre ce temps, d'avoir cette vie de prière tournée vers le vrai Dieu, Dieu lui a parlé vraiment. Et Dieu a ouvert son esprit. Alors qu'il était emprisonné peut-être dans ses pensées, dans ses clichés, Dieu a ouvert son horizon, a élargi son cœur pour qu'il aime aussi les païens et qu'il aille leur apporter l'évangile. Et je crois que Corneille et toute sa famille peuvent lui dire merci. Et je crois que nous tous ici, nous pouvons lui dire merci de voir que comment Dieu peut utiliser quelqu'un qui accepte de faire le toit sur sa maison, d'avoir cette vie de prière véritable qui va permettre de couvrir sa vie, qui va permettre de couvrir et d'être à l'écoute du Seigneur Jésus. Le toit nous parle donc de cette vie de prière. Ça nous permet de créer une protection aussi sur notre cœur face aux attaques du diable, face aux tentations, face aux convoitises de ce monde. Est-ce que nous avons cette vie de prière? À quoi sert une maison avec un toit magnifique, sans mur et sans fondation? À quoi sert une vie de prière avec des paroles rhétoriques incroyables s'il n'y a pas de fondation sur le Seigneur Jésus? S'il n'y a pas d'obéissance à sa parole? À quoi ça sert? À rien. La prière, elle ne monte pas. Elle ne dépasse pas le plafond. Et vous savez que le toit, il y a différentes histoires qui nous parlent du toit dans la Bible, mais il y en a une qui est revenue à mon esprit, c'est le moment où David était sur le toit. David, vous savez que David c'était un homme de prière. David c'était un homme inspiré, vous croyez? Quand on voit tous les livres aussi qu'il a écrits dans la parole, quand on voit le cœur surtout qu'il avait, tous les chants qu'il a fait monter devant le Seigneur, et quand on voit son histoire, le moment où il a tué Goliath, le moment où il a remporté des victoires sur tous les rois, sur les Philistins, etc. Il a rentré dans toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, David. Mais il y a un moment donné où il est monté sur le toit, pas pour prier. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 Samuel 11, verset 2. Déjà, qu'est-ce qu'il faisait? Alors que le peuple était à la guerre, lui, il était en train de dormir. Et il n'était pas à la guerre. Il n'était pas en train de veiller. 2 Samuel 11, verset 2. Regardez ce que faisait David sur le toit. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Qu'est-ce qu'il faisait sur le toit? Il se promenait. Il se promenait tout simplement, alors qu'il y avait la guerre, alors qu'il y avait ces hommes qui étaient au front en train de combattre les ennemis, lui se promenait bien tranquillement. Est-ce que, frères et sœurs, des fois on se promène pas dans notre vie? Au lieu de monter un toit de prière, un toit d'action de grâce, un toit d'intercession en faveur des sujets, est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels prier? Je crois que tous les jours on peut multiplier les exemples de sujets pour lesquels on devrait prier, mais David, il se promenait. Et des fois, on se promène dans notre vie. Des fois, on est là. Au lieu d'avoir cette vie d'intercession, on se promène. On avance comme si tout était bien, comme s'il n'y avait pas de combat, comme si tout était rose. Et ce qui fait que le toit spirituel de notre maison, il a des fuites. Et là, c'est à ce moment-là que David a commencé à laisser rentrer quoi ? Il la convoitise, il a convoité une femme, et la convoitise l'a conduit à l'adultère, ça l'a conduit même jusqu'au meurtre. Il y a eu toutes sortes de choses. Ça a été un accès, encore une fois, au diable. Pourquoi? Parce qu'il s'est promené. Ouais, c'est vrai que ça paraît pas mauvais de se promener. Et souvent, même moi, je me suis fait piéger. Certaines fois, je disais, ah, mais il faut se détendre des fois. Même, je parle de bonnes détentes, hein, je parle pas de mauvaises choses. Et des fois, on se dit, ah, mais on a besoin de se détendre. Qui n'en a jamais dit ça? Quand il rentre de sa semaine de travail épuisé, ah, je vais me détendre. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, des fois, on se met sur le canapé, on allume la télévision. Mais pendant qu'on fait ça, eh ben, il y a des choses mauvaises qui se passent. On voit peut-être des mauvaises images, ou on entend des propos mauvais, et il y a une ouverture qui commence à se faire, notre toit, il commence à avoir des fuites, et il y a la pluie qui commence à tomber à l'intérieur et qui voudrait faire des dégâts. Frères et sœurs, c'est bien la détente. Et on doit se détendre. Et il ne faut jamais oublier qu'on a le devoir, par contre. On a le droit de se détendre, mais on a le devoir de veiller et de prier. On a le devoir de veiller et de prier. Alors que nous puissions être de ces personnes qui qui ne se promènent pas dans leur vie de prière, qui ne sont pas là en disant « mais je ne sais pas pourquoi prier », mais qui disent « Seigneur, tu vois, la personne qui est à côté de moi, mon voisin, ma famille, mes amis, mes collègues de travail, Seigneur, tous ces sujets, combien il y a de sujets dans mon cœur pour les personnes qui sont autour de moi, Seigneur, je veux te prier, intercéder en leur faveur, je veux, Seigneur, aussi protéger ma famille. » Regardez ce qui s'est passé avec l'histoire de Rahab. Vous savez, quand le peuple d'Israël allait voir, aller à la conquête du pays. La première ville qu'ils vont rencontrer, c'était Jéricho. Et Josué, il envoie des espions. Les espions, ils arrivent chez Rahab. Qu'est-ce qu'elle fait, Rahab ? Rahab, elle cache les espions sur le toit. Elle cache les espions sur le toit pour pas que les ennemis qui les poursuivent puissent les voir. Est-ce qu'on n'a pas besoin de cacher les personnes qui nous sont chères, nos familles, les personnes pour lesquelles on a de l'affection, de les cacher dans nos prières, sur notre toit spirituel, de dire « Seigneur, tu vois mes enfants, je veux les cacher, je veux que tu les gardes, je veux que tu les protèges, je veux que tu les entoures de ta grâce. Merci Seigneur parce que tu le fais pour moi, mais Seigneur, que tu puisses aussi le faire pour eux, que la maison que tu es en train de bâtir, c'est super Seigneur, mais que tu puisses bâtir aussi leur maison à eux. Seigneur, c'est ça que je te demande. Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire cette prière, Seigneur ?» Aide-moi à penser à ma famille, à penser à mes amis, à penser aux personnes qui me sont chères. Et dernière chose, dans Deutéronome, chapitre 22, le dernier verset que nous lirons cet après-midi, nous voyons que le toit, ça représente cette vie de prière qui couvre notre maison, qui nous protège de la tempête, qui nous protège de tous ces accès-là du diable. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, il a dit quelque chose sur le toit à ses enfants. Deutéronome 22, verset 8. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras, quoi ? Une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Et combien c'est une bonne parole ! Parce que les toits étaient pleins, on est d'accord ? Mais comme c'était des toits, ils étaient en hauteur. Et il y avait le risque de chute des personnes qui étaient sur le toit. Et Dieu s'est marqué quand même dans la loi qu'il a demandé qu'il y ait une balustrade sur le toit. Et ça nous parle à nous que notre vie de prière doit être cadrée, bordée par la parole de Dieu. Dieu a mis des limites. Et il y a des choses pour lesquelles on peut prier, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas prier. Et tout cela, on peut le savoir comment ? En lisant la parole. Et la parole de Dieu nous garde de toute chute spirituelle à ce niveau. Garde notre vie de prière. Elle nous permet de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Elle nous permet de connaître tout cela. Elle nous permet de ne pas aller trop loin. Il y a des personnes, des fois, qui vont trop loin dans leur prière. Ils demandent à Dieu, comme on disait tout à l'heure, ils demandent à Dieu de faire certaines choses que eux doivent faire. Dieu, je te demande que tu me fasses repentir, que tu me convertisses. Non, mais convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous. C'est à vous de le faire. Dieu, il a mis tous les moyens, il vous a donné la parole, il vous a donné peut-être ce jour-là un pasteur qui a prêché l'évangile, il vous a donné le Saint-Esprit qui est en train de convaincre votre cœur, mais à un moment donné, c'est à vous de vous convaincre, de vous convertir plutôt. Vous comprenez ? La parole, elle est là pour nous dire ce qu'on doit faire. Elle est là pour nous dire ce qu'on doit croire. Elle est là pour nous dire aussi et surtout ce qu'on doit mettre en pratique. Et je voudrais qu'on relise, je vous ai dit que c'était le dernier verset, mais je voudrais qu'on relise Luc chapitre 6. Relire ce texte qu'on a pris au tout début, à partir du verset 48. Luc chapitre 6, verset 48, même 47. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien profond et a posé le fondement sur le roc. » Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Combien nous avons, frères et sœurs, une responsabilité face à nos propres vies, de connaître ou pas une ruine ou pas. De connaître, comme on le disait au travers des chants, l'enfer ou le paradis. Mais cette responsabilité, elle dépend de nous. Elle dépend de la façon dont nous allons écouter les paroles du Seigneur, de la façon dont nous allons nous comporter face à ces paroles. Est-ce que nous allons être des personnes qui disent « Ah, Seigneur, Seigneur !» et qui ne mettent pas en pratique, comme le dit Jésus ? Jésus, il dit « Mais non, pourquoi ? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Soyez des personnes qui bâtissent bien leur maison. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Venez à moi. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui fait quoi ? Qui vient à moi. Cet après-midi, frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous avons besoin de venir aux pieds du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de revenir dans sa présence. Peut-être que Dieu doit nous montrer s'il y a un mur qui penche dans notre vie, s'il y a un trou dans le mur, s'il y a une fuite dans le toit. Peut-être que notre fondation tout entière, elle n'est pas sur le Seigneur Jésus. Peu importe, on a besoin de venir devant lui et de lui dire « Seigneur, fais ton œuvre en moi ». J'ai besoin que tu agisses. Est-ce qu'on peut incliner nos fronts dans ces moments et tourner nos cœurs vers le Seigneur et lui dire « Seigneur, fais ton œuvre en moi. Tu vois que tu m'as donné, Seigneur, de bâtir ma maison sur le roc. Mais Seigneur, combien je veux que cette maison soit bien bâtie. Combien je ne veux pas m'éparpiller dans des choses futiles, Seigneur. Combien je veux que les murs s'élèvent, Seigneur, à ta gloire. Puissent montrer combien tu es un Dieu puissant qui me garde et me protège. Combien, Seigneur, je veux que mon toit, ma vie de prière, puisse t'honorer aussi, Seigneur, puisse me garder ma famille, garder mes enfants, penser aussi à prier pour la ville, comme on l'entendait ce matin. Seigneur, je veux avoir cette vie de prière, avoir ce toit solide, mais je veux surtout que toute ma vie entière soit sur le fondement de la personne de Jésus-Christ. Tu vois les cœurs, Seigneur, cet après-midi, qui ne sont pas encore fondés sur toi, qui ne sont pas enracinés dans ton amour, qui ne sont pas enracinés dans la foi, dans l'œuvre de Jésus. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs. Tu vois ces personnes qui, peut-être depuis longtemps, prient et prient encore afin que tu les convertisses, alors que c'est à eux de se convertir, Seigneur. Touche leur cœur cet après-midi. Permets-leur de prendre cette bonne décision. Permets-leur de te demander pardon, tout simplement, et de recevoir ton pardon et ta grâce dans leur cœur. Merci, Éternel, parce que tu bâtis la maison, et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors nous voulons bâtir la maison avec toi. Et Seigneur, tu nous permets encore, chacun d'entre nous, oui, d'avoir une maison personnelle, mais tu nous permets surtout d'être des pierres vivantes dans ton Église. Seigneur, que nous soyons ces pierres vivantes, et que tous ensemble nous puissions être ce temple dans lequel tu vas venir demeurer, dans lequel tu vas venir marquer de ta présence chacun de ces endroits, Seigneur. Aide-nous encore cet après-midi à discerner s'il y a besoin quelque chose dans notre cœur, un trou dans la muraille, quelque chose qui est caché, que nous n'avons pas vu, que nous avons sciemment éloigné, Seigneur, que nous avons sciemment oublié. Seigneur, aide-nous à réaliser toutes ces choses. Aide-nous à prendre garde aux fuites dans le toit. Toutes ces choses, nous voulons te les apporter. Et que ton Saint-Esprit puisse convaincre encore nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Merci, Éternel. Merci parce que dans ces moments aussi, nous voulons nous souvenir que tu es le fondement sûr et solide pour une seule raison, parce que tu as donné ta vie. Tu vois ce repas que nous allons prendre ensemble, Seigneur, et combien nous voulons encore, chacun pour notre part, t'exprimer notre reconnaissance. Combien nous voulons, chacun pour notre part, te dire que nous voulons bâtir notre maison sur ce rocher solide. Oui, le rocher frappé de Dieu. Tu as été ce rocher frappé de Dieu. À la croix, tu as été frappé par la malédiction, frappé à cause de notre péché, frappé par notre condamnation, pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions avoir une maison bien bâtie, Seigneur, pour que nous puissions goûter à cette protection divine. Alors, Seigneur, dans ces instants, nous voulons tourner notre cœur vers toi, plein de reconnaissance, en réalisant le prix payé, en réalisant que c'est à ce prix-là que nous pouvons bâtir notre maison sur ce fondement éternel. Seigneur, bénis ces instants encore, que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous aider à nous fortifier par ta puissance dans notre être intérieur encore, Seigneur. Merci pour ta paix divine aussi, qui coule dans ces instants, dans ce lieu, dans chacun des cœurs. Amen.